les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour Haïm Korsia. Bonjour. Dans notre époque soucieuse d'environnement, d'écologie, quelle est la position du judaïsme sur la nature et trouve-t-on ce mot dans la Torah fréquemment évoqué ?
C'est plus qu'un mot, c'est un concept fondamental. L'homme ne vit pas dans une bulle, il vit sur la terre. Et dès la Genèse, au début de la Genèse, verset 26, si j'ai bonne mémoire, Dieu dit à Adam, je vais te mettre dans le jardin d'Éden. Et en fait, c'est le symbole de la terre. Écoutez bien les mots, c'est fondamental et c'est fantastique. En hébreu, si vous permettez, les ovda ou le shomra, pour la travailler et pour la conserver. C'est-à-dire que, oui, Dieu donne la terre aux hommes avec la responsabilité de la gérer, de la travailler, c'est-à-dire de l'exploiter, de vivre avec la terre, de vivre sur la terre, de vivre de la terre, mais de la conserver. C'est-à-dire que dès l'origine de la mission que Dieu confie à l'homme, il y a la notion de ce qu'on a découvert en 73 avec la ministre d'Europe du Nord, vous savez, Gros, qui a dit, c'est ça le développement durable. Mais en fait, le développement durable, c'est quoi ? C'est travailler la terre pour la conserver. Ne rien travailler, ne rien exploiter de la terre qui puisse enlever quelque chose qu'on ne pourrait pas transmettre aux autres. Donc en fait, ça, c'est important. De manière donc, générale, l'homme vit dans cet environnement, dans sa biosphère, son environnement immédiat, c'est la terre, c'est la nature. Et donc, il est important, on le voit par exemple lorsque Dieu demande à Noé, évidemment, lorsque Dieu demande à Noé de se sauver, il ne demande pas juste de se sauver lui, sa femme et ses enfants et leurs femmes. Non, il demande de sauver les animaux, c'est-à-dire la nature. On voit que dans le projet divin du monde, il y a aussi les animaux. Et vous connaissez l'histoire des animaux qui entrent deux par deux, ou sept, lorsqu'ils étaient des animaux purs, mais enfin, par couple, dans l'arche de Noé. Et cette humanité, vous voyez le mot que j'emploie à dessein, cette humanité à sauver contient aussi les animaux.
C'est tout le vivant.
Exactement.
Enfin, les plantes
tout,
aussi.
Les plantes
tout
aussi.
Ce qui est
tout
vivant.
Le vivant. Et on voit la tension qui est la nôtre, enfin, qui est celle de la Bible, à des choses qui sont stupéfiantes quand on les analyse avec la rationalité qu'on veut imposer au monde aujourd'hui. Vous savez que, par exemple, on n'a pas le droit, aujourd'hui, de porter un habit dans lequel sont mêlés tisser ensemble du lin et de la laine.
Mmh. Et pourquoi ?
C'est dans la Bible. Une des interprétations, alors, pourquoi ? Il faudrait demander à Dieu. Et je ne suis pas encore son secrétaire.
Bon.
Mais de manière très intelligente, je trouve qu'il y a une idée forte là. C'est que le lin provient du domaine du règne du végétal. La laine provient du règne de l'animal. La laine, ça impose une multitude d'attention pour préparer de la laine. On ne fait pas de la laine comme on fait du lin. Le lin, c'est des plantes. C'est assez rustre comme matériel. Ce qui est important, c'est qu'on nous apprend la distinction des genres. Tu ne mélangeras pas le lin et la laine. Comme il est dit par ailleurs, tu ne mélangeras pas le lait et la viande. Quand on disait tu ne mélangeras pas le lait et la viande dans la Bible, pourquoi ? C'est dit de manière très poétique, à trois reprises. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Il y a une attention à l'animal. Il y aurait quelque chose d'indécent, de profondément inhumain, encore une fois j'utilise ce mot, de cuire l'animal d'un petit chevreau dans le lait de sa mère. Il y aurait quelque chose d'insupportable. Alors de là on a extrapolé, on ne mange pas du lait et de la viande ensemble. Ce qui veut dire que on a anticipé sur 3500 ans cette idée qu'on a compris malheureusement un peu tard avec l'histoire de la vache folle, qu'à mélanger les genres et les règnes, on en venait à refaire le tohu-bohu initial, c'est-à-dire à décomposer ce que Dieu puis l'homme avait ordonné. Ce que la création, en fait, c'est qu'une ordonnance, un ordonnancement du tohu-bohu. Et nous, en ne faisant pas attention à la façon qu'on a de traiter la nature, on en vient non seulement à la désorganiser, mais à désorganiser la place de l'homme dans cette nature. On ne peut pas à la fois vouloir exploiter la terre, créer, ne pas tenir compte des problèmes climatiques, etc. Et trouver après que les problèmes climatiques vont causer d'immenses inondations parce que ça va perturber l'écosystème, ça va perturber la couche d'ozone, etc. Je ne peux pas vous dire si les uns ou les autres ont raison, je ne peux pas vous dire si Claude Allègre a raison.
Non, ce n'est pas le problème d'ailleurs.
Ce que je dis, c'est qu'il y a une attention de la Bible à l'homme dans son univers, dans la nature. Et on voit avec, d'ailleurs, quelle humilité l'homme devrait se considérer, ce qui n'est malheureusement pas le cas.
Oui, ça aurait été plutôt l'arrogance. D'ailleurs, ça a été traduit comme ça à un moment donné. La Bible a été traduite comme « soumettez la terre » et
c'est
pas ça du tout.
C'est absolument pas ça. C'est... D'ailleurs, il est dit dans un très très beau commentaire, si à un moment tu as une pointe d'arrogance, pense que le moindre des petits moustiques est arrivé dans la création avant toi. Parce que l'homme a été créé dans les six premiers jours de la création. L'homme a été créé le sixième jour, à la fin du sixième jour en plus. Et les moustiques ont été créés bien avant, deux jours avant. Ou la veille, en tout cas, veille, au sens de quelques millénaires avant. Donc, il y a une humilité de l'homme, normalement, devant ça. Quand vous parlez de cette traduction qui est erronée, qui veut dire « asservissez la terre », c'est pas ça. C'est-à-dire imposer la vocation des choses. On a un très beau passage de la Bible, au tout début, évidemment, on s'intéresse à la Genèse, là, qui nous explique que Dieu demande à l'homme de donner un nom à chaque chose, à chaque animal. Qu'est-ce que ça veut dire, le nom ? Le nom, c'est la vocation. Et donc, Dieu dit à l'homme, attribue une vocation à chaque chose et fais en sorte que ça puisse fonctionner. Donc, c'est une immense responsabilité. Je dirais de manière imagée, l'homme est le métayer de Dieu sur terre. C'est l'homme qui a en responsabilité active la nature. Et un jour, Dieu peut être amené à demander à l'homme, qu'as-tu fait de ma terre ? Comme il a demandé à Caïn, où est ton frère ? Et Caïn a répondu à Dieu, suis-je le gardien de mon frère ? Peut-être qu'aujourd'hui, on devrait avoir le courage de dire, je suis le gardien de la terre. Et je m'amuse toujours à constater que les plus grands écologistes se battent pour avoir une journée sans voiture. C'est-à-dire sans gaz d'échappement, sans voiture. En fait, c'est pas tant le gaz d'échappement. C'est l'idée de retrouver un lien normal avec la marche, avec les distances humaines. Non pas les distances prolongées, démultipliées, mais les distances humaines. Finalement, dans le judaïsme, avec le Shabbat, où on n'a pas le droit de prendre les voitures, on n'a pas le droit d'utiliser un véhicule le samedi, on a, nous, 52 jours par an sans voiture. Donc, plus écologiste que le judaïsme.
On ne peut pas trouver. Est-ce que, justement, les juifs actuellement, en tout cas en France, mettons, sont sensibles à l'écologie ? Est-ce qu'ils s'engagent dans des partis ? Est-ce que, politiquement, comment c'est
écologie
ressenti ?
Écologie politique, c'est autre chose. Moi, je n'aime pas à prendre position sur cette question. Je dis simplement que limiter l'écologie à ne pas fermer le robinet quand on se brosse les dents, ou à ne pas faire ci ou ça, c'est ridicule. L'écologie, c'est une façon de respecter tout ce qu'il y a autour de nous. De ne pas être dans une forme, et c'est vous qui avez le mot juste, une forme d'arrogance par rapport à la création, en considérant que finalement, puisque je suis un homme, j'ai tous les droits. Parce que si on le fait avec la nature, on finira à le faire aussi avec les autres.
Bien sûr.
Et je crois qu'il y a une sorte d'humilité par rapport aux autres créatures qui ont aussi leur rôle. Et c'est la question fondamentale que pose le roi David. On pourra peut-être conclure. Mais je trouve que c'est très beau ce passage. Le roi David demande à Dieu, mon Dieu, j'ai compris toute ta création. Tout dans ta création, j'ai compris. Deux choses, je n'ai pas compris. Les fous et les araignées. Alors le roi Dieu lui dit, tu verras. Et un jour, David est prisonnier du roi assyrien et il simule la folie. Et le roi assyrien dit quoi ? C'est ça, David, dont on me dit que le roi Saül veut absolument la tête. Il est fou.
Allez, libérons-le.
Et David comprend les fous. Et puis un jour, il est poursuivi par les soldats de Saül. Et il rentre dans une grotte, vraiment très près de lui, les soldats. Et une araignée tisse à toute vitesse une toile. Et quand les soldats voient la toile, ils disent, bon, personne n'a pu rentrer. Et ils s'en vont.
Voilà. C'est une allégorie. Sauvé par ce qu'il ne comprend pas.
Voilà, c'est une allégorie. Bien entendu, la fonction des araignées n'est pas uniquement de faire des toiles pour protéger la fille du roi David, mais c'est une allégorie pour que David comprenne que chaque créature, chaque vraiment créature qui n'est que le résultat de la volonté de Dieu sur terre et dans les cieux, a sa place et sa justification. Et si nous, on ne la trouve pas, c'est que nous ne l'avons pas comprise. Ce n'est pas qu'elle n'en a pas, c'est que nous ne l'avons pas comprise. Et je crois qu'il faut être prudent et dans une posture d'humilité par rapport à la nature, même si en parallèle, évidemment, je me méfie d'une sorte de déification de la nature qui viendrait à une sorte d'idolâtrie de Gaïa, de la déesse Terre.
Qui n'est pas dans le judaïsme.
Qui n'est certainement pas dans le judaïsme.
Tradition,
qui n'est pas non plus dans la tradition chrétienne. Parce que la Terre, elle est bien dans cette posture où l'homme doit la gérer, doit la travailler et doit la conserver, c'est-à-dire la respecter.
Soyez entendus dans ces propos et que nous puissions travailler tous ensemble dans ce même sens. Merci à Aïm Corcia. À bientôt pour un autre mot.
Au revoir.